Interview.
2 jours.
Le partage de l'eau, donc une balade, déambulation, performance et observation naturaliste à la rencontre d'une zone humide. C'est proposé par La Perruque. La Perruque, donc, avec Nadine Alibert, bonjour.
Bonjour Yves.
Et Lucie Chaumont, bonjour.
Bonjour.
Et aussi à nos côtés, Christophe Bouchon, qui va intervenir aussi pour cette cérémonie.
Bonjour.
Bonjour.
Il y a aussi avec nous, qui n'est pas là au moment où on fait cette interview, mais Audrey Guézan-Doncel, qui est danseuse et qui est notre complice et qui a travaillé avec nous pour préparer ce moment.
La Perruque propose aujourd'hui, samedi, en préparation à cette balade pour demain, des confections en carton. Ce sont des masques, je crois, et puis aussi des objets fabriqués à l'aide de tiges, de saules. De quelle matière ?
Alors, les végétaux que Christophe et Claire sont en train d'assembler avec des techniques inspirées de la vannerie, c'est des végétaux qui ont été prélevés en bord de Drôme. Et il y a du saule. Peut-être que Christophe, tu peux dire le nom des végétaux avec lesquels vous travaillez là en ce moment.
Oui, alors il y a un peu de saule saule sauvage qui a été prélevé en bord de Drôme. Mais il y a aussi du sol cultivé que j'ai récupéré depuis une culture d'osier, osier blanc. Et puis il y a eu aussi un peu d'aulne glutineux qui a été récupéré en bord de Drôme aussi. Voilà.
Et donc, ça va être l'explication de cet atelier donc aujourd'hui, où sont entreposés sur des tables des cartons en cours de montage, de pliage, de collage, et ensuite décorés, je pense. Alors, ce travail, c'est pourquoi ?
C'est pour l'événement de demain, donc qui est la déambulation manif performée. Qui va avoir pour objet la visite de la zone humide qui se trouve en bordure du village et qui a pour objectif de faire une offrande au milieu humide et au castor. Donc on est en train de préparer des masques, des objets étendards qu'on va tenir au-dessus de nos têtes et des friandises pour les castors parce qu'ils raffolent de ces végétaux et ils n'en ont pas là-haut dans la lagune qu'ils ont formée, ils ne sont pas présents. Voilà. Et donc, en voici l'objet.
Ce type de cérémonie que vous allez partager demain, est-ce que c'est inspiré aussi de rites que vous avez pu découvrir sur d'autres cultures pour remercier la nature en quelque sorte ?
On ne s'est pas inspiré de rituels en particulier, on s'est plutôt, on fait référence à l'imaginaire collectif de la question du rituel et des offrandes faites à la nature. Et en fait, en réfléchissant, en préparant l'événement, là, on s'est dit que, on sait qu'on est dans un contexte de dérèglement et de réchauffement climatique. Et on sait aussi que les castors, après avoir été quasiment exterminés par l'homme en Europe, et du fait qu'ils ont été protégés, en fait, j'aime pas le terme reconquérir parce que c'est un terme guerrier, mais ils ont pu retrouver de nouveaux endroits. Et du coup, Barnave en fait partie, puisque en fait, c'est probablement à partir du fait que les castors se sont réintroduits en bord de Drôme, qu'en fait, ils sont montés jusque jusque dans les pourtours du village. Et qu'ils ont créé ce milieu humide à partir d'un ruisseau qui était un tout petit ruisseau. Et du coup, on se dit que ben, ils nous rendent beaucoup service en faisant ça. Et que du coup, nous, on a envie de leur rendre hommage et puis de leur dire merci. Voilà, tout simplement. Alors effectivement, on fait référence à toute une, on va dire, toute une tradition et toute une histoire de la question de l'offrande et de la cérémonie autour et des rituels autour de la nature. Mais on ne s'est pas appuyé sur un rituel en particulier. C'est vraiment dans l'imaginaire qu'on puise dans la question de l'imaginaire collectif, quoi.
Et après, pour nous, le geste artistique, c'est aussi un geste qui fait cadeau. Du coup, c'est une façon de nous faire un cadeau à nous, de faire ça, de faire cette marche, d'aller faire cette marche jusqu'au milieu humide et en faire profiter aussi les espèces qui vivent là. Voilà, de faire un geste artistique qui soit un cadeau pour eux aussi.
On reparlera des castors. Et puis, il y a aussi cette observation naturaliste. Ça sera l'occasion, donc, lors de cette balade, de prendre quelques pauses et puis de découvrir quoi ?
Eh bien, de découvrir un petit peu les petites bêtes qu'on peut trouver, beaucoup d'insectes aquatiques, qui sont venus grâce notamment à la création d'un milieu humide par les castors. Donc ce sera essentiellement ça. On pourra aussi entendre des batraciens chanter. Et c'est déjà bien. En fouillant un petit peu dans la vase, on verra qu'il y a quand même beaucoup de vie.
En parlant du castor, antérieurement à l'enregistrement, vous parliez donc de ce petit bassin qui s'est constitué grâce au barrage de castor. Est-ce que ce bassin a amené aussi une faune et une flore en plus ?
Oui, c'est ce que je disais, en fait, le fait d'avoir humidifié le secteur, il y a tout un tas de faune, on va dire, de faune d'invertébrés, donc les insectes, qui se sont rendus par le vol à cet endroit-là et qui ont commencé à occuper le milieu. Et c'est pareil pour les grenouilles, hein, les batraciens, dès qu'il y a de l'eau, c'est la fête à la grenouille.
Et donc, il y a des insectes qui seront à découvrir, des oiseaux également, des couleuvres aussi.
Oui, oui. Il y a aussi le... Oui, je vois que tu regardes le papier, oui. Il y a aussi les serpents d'eau, on appelle serpents d'eau. Il y a quelques couleuvres qu'on retrouve dans le milieu humide, comme la couleuvre vipérine. On en a vu une l'autre fois, d'ailleurs. Et la couleuvre à collier aussi, qu'on peut trouver, oui.
Une question qui me vient par rapport aux anciens du village qui n'ont peut-être pas connu ce barrage et cette retenue d'eau en amont du village. Pour eux, est-ce que ça leur a ouvert les yeux ou alors est-ce que pour eux c'était peut-être un retour de ce qu'ils ont vécu étant jeunes, qui avait peut-être disparu ?
Tu parles de la zone humide ?
Oui.
J'ignore. J'ai pas de réponse à cette question. Lucie,
ouais,
toi ?
Moi non plus, je sais pas. En fait, on n'a pas encore eu d'échange avec des personnes qui vivent depuis longtemps dans le village. Du coup, peut-être que à partir du fait qu'on ait fait ce moment, ça sera peut-être que ça va. Enfin, c'est peut-être ce qu'on souhaite aussi que ça puisse ouvrir des échanges et des discussions sur la présence du castor, parce qu'effectivement. Pourquoi on a choisi aussi ce site tout particulièrement, c'est que c'est vraiment il y a la zone d'habitat des castors qui est presque un village de castors qui est en miroir du village des humains et du coup c'est une zone où vraiment les deux milieux les deux espaces de vie plutôt sont dans une grande proximité et vraiment il y a une zone frontière qui est très nette à l'endroit hein, puisque en fait il y a des zones cultivées avec de la vigne en fait qui sont très très proches en fait qui touchent l'endroit où les castors se sont installés. Donc il y a aussi la question de la frontière là qui nous intéresse et comment du coup le castor est amené à défendre un peu son territoire qui est vraiment sous forte pression par l'activité humaine, quoi. Et peut-être qu'à partir de cette forme, qu'on propose demain, on souhaite faire en sorte qu'il y ait, que les langues se délient et que peut-être que les histoires ou, je sais pas, pareil, les questions de l'imaginaire autour de la présence des animaux et du vivant autour de nous se libèrent ou s'ouvrent ou deviennent une matière d'échange, quoi. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas encore d'informations sur la présence des castors ici auparavant ou pas d'ailleurs.
Ouais. Vous n'avez jamais eu de conversation. Tiens, il y a des castors qui sont installés plus haut dans les conversations du village. Non, c'est un peu l'inconnu, ce monde, cette lagune des castors.
En fait, les gens du village connaissent l'endroit. Il est apprécié des villageoises et des villageois. Il y a une partie des gens du village qui s'y rendent assez régulièrement pour justement aller observer les travaux des castors, puisqu'en fait, du coup... ils ont quand même eu vraiment une grosse action sur la zone qu'ils habitent et du coup c'est assez spectaculaire. En fait, de mois en mois, on peut voir vraiment le site se transformer. Et c'est aussi une zone où, enfin, en fonction des saisons, il y a des choses différentes, différemment belles à observer. Donc en fait, une partie des gens du village sont assez attachés à cet endroit. Qui est aussi un endroit un peu secret.
Oui, il ne s'agira pas de dévoiler l'endroit, ouais. Tout simplement. Et donc, vous avez croisé vos compétences avec Nadine, Lucie pour l'aspect plastique. Audrey sera présente demain pour de la danse. Et Christophe, donc Bouchon. Oui, pardon.
En fait, Audrey, elle est venue nous soutenir parce que comme on met nos corps en jeu, on avait besoin d'un regard à cet endroit-là, en fait. Mais on va pas avoir il va pas y avoir de moments de danse, voilà.
Ouais, elle a travaillé avec nous sur comment sur les déplacements, comment on peut se mouvoir, et puis du coup comment aussi le groupe, comment on peut inviter le groupe qui va faire la balade à se mouvoir d'une manière particulière avec la question d'une dimension sensorielle, en fait, comment on peut essayer de se réouvrir nos sens, notamment Louis, la question de comment on marche, comment on peut marcher doucement ensemble, en silence, à l'écoute, voilà. Donc elle a travaillé avec nous particulièrement sur cette dimension-là. Ouais.
Et Christophe, quel apport amènes-tu dans cette proposition du partage de l'eau ?
J'amène un petit apport de connaissances. Donc ce dont je parlais tout à l'heure, on va un petit peu regarder ce qu'on trouve dans la vase. C'est intéressant parce qu'il y a un panel assez large d'espèces. Et je vais raconter un peu quelques anecdotes sur la vie de l'animal qui a permis de créer tout ça. Et il y a aussi une petite partie sensorielle que j'ai envie de partager aussi. Une petite expérience sensorielle pour ceux qui veulent, mais j'en dirai pas plus.
Cette proposition du partage de l'eau sera peut-être amenée à être répétée pour l'avenir.
On y pense. Au jour d'aujourd'hui, on y pense. Voilà. Peut-être à l'automne, peut-être à un moment donné qui serait propice peut-être à introduire une espèce végétale pendant que le castor dort pour qu'elle puisse faire racine avant qu'il le mange, pour lui faire une surprise au printemps.
Oui, et puis comme il est quand même question de rituel, on se dit que peut-être... On serait peut-être en train d'inventer un nouveau rituel pour se relier au castor sur un mode qu'on avait un peu peut-être oublié ou réinventer quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on a connu ou qui s'est perdu. Voilà, et que du coup, pourquoi pas répéter cette proposition, répéter les gestes, quoi.
Christophe, tu pourrais peut-être nous parler aussi de ces castors. Depuis combien de temps sont-ils installés sur cette lagune donc?
Ben c'est une bonne question parce que j'ai découvert le site il n'y a pas très longtemps, à l'occasion d'une sortie nature avec Sources et Racines. Et alors moi je suis arrivé sur le territoire en 2016 et apparemment ils étaient déjà là en 2016. Voilà, donc ça fait quand même un bon nombre d'années.
Après, et pardon, je t'interromps. Et depuis 2016, est-ce que tu as pu voir justement un changement du site, une transformation du site?
Ben, je suis jamais venu en fait. J'ai découvert en février de cette année. Et après, il y a une petite subtilité pour arriver à informatique, on va dire, pour arriver s'il y a des choses qui ont bougé. L'IGN a publié, mis en ligne un site qui s'appelle Remonter le temps, et on peut aller voir sur un site géographique. 50 ans en arrière notamment, comment était le site. Donc ce soir je pense que je vais aller voir aussi loin que je puisse aller voir sur ce secteur s'il y a eu des traces d'aménagement du castor.
J'aimerais bien savoir, est-ce que vous vous êtes un peu documenté sur le castor, sa surface de vie, d'existence, qu'est-ce que vous auriez envie de développer par la suite avec cette notion de rencontre avec la nature et puis peut-être de l'apport qu'elle amène elle-même sur l'existence humaine?
Je vais répondre pour la première question, c'était sur la vie de l'animal. Donc l'animal est territorial. Il a 3 km de territoire à partir de son terrier hutte, de son terrier. Et après, ben, une fois qu'une famille s'installe et qu'elle fait des petits, ben, les petits, au bout d'un moment, sont invités à quitter le terrier et puis d'aller chercher un autre territoire disponible. Comme disait Lucie, ben voilà, le fait qu'il était protégé permet aujourd'hui à cette espèce de réoccuper pas mal de cours d'eau, la Drôme étant le principal, mais les affluents comme la Barnavette est un exemple d'occupation qui vont peut-être avoir tendance à se généraliser par la suite. Voilà pour un bref aperçu de la vie animale. Et l'autre question, c'était sur...
L'apport qu'amène justement cette existence de sites de castor sur la population humaine. Est-ce que ça amène un bienfait?
Alors, d'un point de vue nature, j'ai lu une étude, le résumé d'une étude récente canadienne qui disait que les Canadiens, ils le tuent, le castor, parce qu'ils se plaignent qu'il abat beaucoup d'arbres. Et en fait, il y a des chercheurs qui ont mis en lumière le fait que, comme c'est un jardinier qui met en eau tout ce qui l'occupe, ça permet de faire des réserves d'eau en cas d'incendie. Et là, justement, le Canada, en ce moment, il est en train de connaître un peu des méga-feux. Et voilà, ils sont en train de dire, attention, vous les tuez, ok, vous les régulez, mais voilà, il a un apport bénéfique. Donc ce qu'il fait au Canada, c'est aussi bon pour nous, et c'est aussi bon sur la lagune qu'on voit à Barnab. Après, avec la relation avec l'humain, ce que je trouve intéressant sur ce site-là, c'est qu'on parle du partage de l'eau, mais il y a aussi le partage de l'espace. Et ça, on est vraiment au cœur, parce qu'on a des vignes, le castor, il va aller manger ce qu'il trouve sur place, donc... Il y a un petit peu de sol, mais il n'y a pas beaucoup de sa nourriture favorite. Donc il se peut, je crois qu'il a déjà fait, et peut-être il est allé déjà un peu grignoter quelques cèpes. Donc c'est là où il peut y avoir vraiment interaction avec les activités humaines. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, en fait. Voilà.
Le fait du travail du castor, d'avoir créé en quelque sorte cette retenue d'eau, avec peut-être l'apparition d'espèces animales qui reviennent aussi, est-ce que vous avez étudié un peu les insectes qui y vivent et qu'est-ce que ça amène aussi par rapport à la nature locale?
Je dirais que quand on favorise l'implantation d'animaux qui constituent, je vais dire, une chaîne alimentaire, c'est toujours favorable, parce que là on a les insectes aquatiques, qui dit insectes dit larves, et puis après s'il y a les oiseaux qui sont euh, qui peuvent revenir aussi des oiseaux liés au milieu. Je pense au martin pêcheur, il aura besoin de poissons, mais on ne sait jamais. Il pourrait y avoir le cincle plongeur aussi, des oiseaux un peu spécifiques au milieu aquatique. À voir, c'est à suivre dans la durée.
D'ailleurs, la question me vient, il y a du poisson aussi?
Moi, j'en ai pas vu. Moi, j'ai vu des têtards, j'ai vu des grenouilles, j'ai vu des gérisses, j'ai vu des neppes.
Des larves de libellules.
Des punaises d'eau.
Des vipérines dans l'eau, mais on n'a pas vu de poissons.
Alors, pour les poissons, là, comme le barrage, il y a un mur entre le dernier barrage et l'écoulement de la Barnavette, le poisson, il ne pourra pas remonter. Ça, c'est un peu ce qu'on peut reprocher des fois au castor, le fait qu'il ne puisse pas permettre aux poissons de remonter. Après, s'il y avait déjà des poissons en amont du barrage, peut-être qu'il y aura piégeage de poissons et qui sait, peut-être reproduction. Mais ça, moi, je j'ai pas vu de poissons non plus, mais je n'ai pas encore bien inspecté la zone.
Cette prise de conscience de cette lagune, vous la connaissez en 2016, hein, Christophe, tu l'as connue depuis 2016?
Non, moi je la connais depuis le mois de février de cette année, mais comme les filles sont là depuis 2016, enfin moi je suis arrivé en 2016 sur le territoire et la lagune existait déjà. Donc elle a au moins sept ans d'existence, quoi.
Et justement, par rapport aux habitants, vous avez pu échanger là-dessus? Est-ce que d'autres habitants connaissaient l'existence de ce site?
Oui, oui, tout le monde connaît l'existence de ce site à Barnave. Nous, on l'a découvert très vite, en fait. On a eu envie de faire quelque chose là-bas. Et voilà, et l'occasion de Barnave aux artistes nous a mis un peu le nez dans ce projet, enfin voilà, nous a mis le nez dans ce désir qu'on avait, et on est très content de faire ce geste demain. Voilà, on concrétise quelque chose qui nous fait très envie depuis 2016, depuis qu'on est arrivé.
La nature vous inspire certainement, vous deux, Nadine et Lucie. C'est le cas?
Bah, la nature, oui. Après, c'est la nature, c'est très vaste. C'est peut-être plutôt
la relation
que l'humain a à la nature et au vivant en particulier. Voilà, de manière plus à la fois plus précise et peut-être encore plus vaste. En tout cas, c'est la question de comment les humains... quel est leur lien, de questionner à travers les formes qu'on propose, surtout les formes performatives. C'est de questionner effectivement quel est le lien que les humains et les humaines entretiennent avec le milieu dans lequel ils vivent.
Et les dimensions politiques qui peuvent naître de ça.
Et puis précisément dans la forme qui est proposée ce dimanche, il y aurait peut-être l'envie ou l'idée d'un geste de soins ou de grandes précautions, avec peut-être l'envie ou le désir d'une réparation vis-à-vis du vivant que les humains aient dans l'ère, dans l'Anthropocène et dans l'économie capitaliste néolibérale et extractiviste. L'humain fait mener la vie dure au milieu dans lequel il vit, à tel point qu'il est en train de l'anéantir. Du coup, ouais, je crois qu'il y a la question du soin et de la réparation, ouais, à travers ce cadeau, rituel, cérémonie, observation.
Laisser la place à la nature de se gérer elle-même, c'est aussi une idée. Et est-ce que vous en êtes à prendre des notes ou à capter aussi cette gestion de la nature par elle-même, plastiquement?
En fait, moi j'ai le besoin d'union. En fait, c'est plutôt le besoin d'union à l'environnement. Voilà, du coup, notre geste, il va vraiment dans ce sens-là, de s'unir à. De s'unir à mes voisins, à des pères, à des, des pères vivants, des pères végétaux, des pères minéraux, des pères culturels.
Ouais. Mais en tout cas, c'est de notre point de vue d'humaine, parce que je crois qu'on n'a pas encore absolument déconstruit notre anthropocentrisme. Du coup, ça se fait à partir de notre... de notre positionnement et notre expérience d'humaine.
Et plasticienne. C'est humaine et plasticienne.
C'est un travail, donc, de se détacher de l'anthro... Comment peut-on dire ?
L'anthroposcentrisme ? Bah oui, on le questionne, quoi.
On s'en défait pas, mais on le questionne.
Ouais.
D'accord avec... Christophe, d'accord aussi avec Lucie, c'est ce qui vous a réuni d'ailleurs pour cette activité ?
Alors moi ça me parle parce que avec le métier que je fais qui est on va dire accompagnant en nature, ça me parle cette démarche de questionner la place de l'humain et toute cette histoire d'intervention ou pas la nature. Qu'est-ce que la nature ? Parce que Philippe Descola, il dit que la nature, ça n'existe pas. Et moi, ça m'interpelle aussi quand il dit ça. Et là, on s'est rencontrés. Moi, j'ai bien aimé la proposition des filles parce qu'il y a un côté, d'amener le côté artistique dans le côté apport de connaissances. Je trouve ça très intéressant. Très intéressant.
Votre travail d'artiste, ce que je voulais dire, est-ce que vous êtes à établir, peut-être pas un document, mais une prise en compte est-ce que vous travaillez, ne serait-ce que pour les peintres naturalistes du 18e ou 17e siècle, qui avec l'explorateur à travers la planète peignaient les animaux qu'ils rencontraient, est-ce que vous avez cette démarche aussi de montrer ce qu'est ce site ?
C'est pas, en fait, je pense qu'il y a vraiment la question de comment on se relie aux choses. Et du coup, là, ce qu'on propose, c'est de passer par différentes expériences. Donc, il y a l'expérience de l'observation naturaliste, donc avec qui serait, on va dire, une approche scientifique, dont Christophe est le médiateur, on va dire. Et en fait, nous, ce qu'on propose, c'est... C'est une question du rapport à l'attention qu'on peut porter à ce qu'il y a autour de nous. Donc l'attention, L'apostrophe, attention. Et de l'expérience du regard aussi. Voilà. Et du coup, c'est l'invitation qu'on fait demain aussi. C'est à travers le rythme et toute la partie sensorielle par laquelle on va passer en fait en faisant cette expérience. C'est de se mettre dans un rapport particulier et singulier à ce qui nous entoure, voilà. Et donc, c'est pas tellement représenté dans l'idée de représenter, faire une photo, voilà, passer par la question de la représentation de cette sorte-là, plutôt essayer de modifier notre regard et le regard et l'attention qu'on porte sur les choses.
Je veux juste ajouter qu'il y a un rapport au temps aussi, voilà, de créer un espace-temps qui fait qu'on pousse un peu les murs, en fait, on pousse un peu la pression du temps pour effectivement que le regard puisse s'étendre et prendre le temps d'attraper ce qui a besoin de temps pour être vu. Ouais.
On peut parler rapidement d'Audrey, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui amène son regard artistique sur cette déambulation. Audrey Guesson-Doncel, donc, et de quel endroit ?
Elle vit à Die. Ouais, elle vit à Die, Audrey. Et en fait, on l'a invitée, elle aussi, au même titre qu'on a invité Christophe. C'est Nadine qui l'avait rencontrée dans un moment de vie, ailleurs, par ailleurs, et du coup, elle lui a fait l'invitation de venir nous rejoindre, au même titre que voilà, on a lancé l'invitation pour Christophe, et ça, du coup, c'est en fait, pour nous, c'est important de travailler avec des personnes qui vivent ici, qui vivent et qui travaillent ici, Et voilà, du coup, c'est un peu dans cet état d'esprit qu'on leur a lancé l'invitation. Et puis, Christophe en parlait un peu, on aime bien aussi croiser les pratiques et puis les approches, quoi. Donc, en fait, on peut travailler sur le même sujet, mais avec des approches différentes et du coup qui peuvent être super complémentaires, quoi. Et ça nous intéresse vachement de travailler comme ça.
Ouais, tout à l'heure, Lucie parlait de fait de comment on se relie aux choses, mais nous, enfin, il y a aussi comment on se relie aux gens. C'est-à-dire, on fonctionne souvent avec des invitations à d'autres personnes qui travaillent avec d'autres médiums ou d'autres domaines de recherche. Et là, on a beaucoup de chance. Et là, là pour cette expérience-là, on a souvent beaucoup de chance, mais là, on en a vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est très... Le travail se fait de manière extrêmement fluide. On se comprend très simplement et c'est extrêmement agréable. J'espère que ce sera... Et du coup, il y a des chances que ce soit agréable pour tout le monde, en fait. Mm-mm. Pas que nous.
Donc, je résume. Christophe, toi, tu amènes un peu ta science sur ce domaine de la nature, de cette flore, de cette faune. Et vous deux, donc, Lucie et Nadine, êtes peut-être à la recherche d'une représentation plastique de ce travail, comment le signifier. Et ça, c'est un travail que vous avez commencé depuis un moment déjà.
Avec Lucie, on travaille ensemble depuis... on s'est rencontrés en 2007, 2008, 2006 peut-être. Et on travaille ensemble depuis 2019. Voilà, donc on se connaît 2009. Bien. Ah oui, 2009, 2009. Ouais, bah oui. Depuis 2009. Et du coup, notre travail, il prend forme petit à petit. Et la question de l'espace, de la performance, se dessine de lui-même. Voilà, on se connaît très bien et on est très complémentaires, à la fois sur des espaces d'intuition, des espaces de théorie, des espaces... Et c'est ce qui fait que je pense qu'on arrive à travailler assez facilement avec d'autres pratiques.
Ce travail du partage de l'eau, vous le partagerez aussi peut-être sur un blog ou sur votre site de la perruque pour peut-être annoncer le travail en cours ou comme un journal de bord, je ne sais pas.
Ça, c'est un travail en cours sur lequel on a quand même pas mal de retard, la communication par Internet.
Oh, ben. Tôt ou tard, il sera communiqué sur le site Internet. www.la-perruque.fr.
Oui, un jour, bientôt.
Christophe, toi-même, on peut connaître un peu ton travail ou une passion que tu exerces sur Internet.
Tu veux dire comment je diffuse mon travail sur Internet?
Entre autres.
En fait, j'ai pas de site Internet. J'ai fait ce choix de pas en avoir. Et du coup, ce que je fais, c'est de bouche à oreille. Et puis après, quand je fais des propositions de sortie nature ou de formation en vannerie, par exemple, j'utilise le médium papier. Et pour l'instant, je fonctionne comme ça.
Tu agis aussi au sein de Sources et Racines, toi-même ?
Oui, j'interviens de manière... épisodique et régulière au sein de Sources et Racines, ouais. Oui.
Eh bien, il y a un site internet pour Sources et Racines,
oui.
Aussi.
Oui.
Nadine, Lucie, Christophe, je vous remercie tous trois de nous avoir donné un peu de temps sur Erdiwa pour nous parler donc du partage de l'eau.
Merci Yves.
Merci.
Merci du passage.
Et au revoir à vous aussi. Bonne soirée.